France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver en direct pour un quart d'heure d'initiative positive. Les carnets de campagne passent la semaine dans l'Hérault. Et en ce jour de fête du travail, on va s'intéresser à une catégorie professionnelle qui souffre d'isolement et d'un manque criant de reconnaissance. Les agricultrices. Ensuite, je passerai un coup de fil à l'ODEV pour parler d'un habitat participatif qui va bientôt voir le jour. L'îlot vert de la Soulondre. Les habitants et habitantes de ce petit immeuble au bord d'une rivière seront à la fois propriétaires et locataires. Et ils sont convaincus que c'est un modèle d'avenir. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Un tiers des exploitations agricoles en France sont dirigées par des femmes. Pourtant, elles sont très nombreuses à souffrir encore aujourd'hui d'un manque de reconnaissance ou d'un certain isolement. Aussi, la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, a-t-elle mis en place une ligne téléphonique gratuite. Deux demi-journées par semaine, les agricultrices dans l'Hérault, le Gard et la Lozère peuvent téléphoner gratuitement donc pour parler, se confier ou demander de l'aide. Estelle Rouvière, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes chargée de développement social et territorial à la MSA. Quelle a été la genèse de ce projet? Comment est née cette ligne téléphonique?
Oui, alors l'idée première de la création de cette ligne téléphonique était de penser en fait un lieu ressource pour les femmes du milieu agricole, que celles-ci soient exploitantes, salariées agricoles, c'est-à-dire sur une exploitation ou bien aide à domicile ou relevant aussi du secteur administratif comme la MSA, le Crédit Agricole ou Groupama. Ou bien des femmes en fait vivant sur une exploitation agricole avec leur conjoint ou conjointe. À l'époque, nous étions en période de crise sanitaire Covid et en raison de l'incertitude en fait de cette période et en fait dans une volonté de n'exclure aucune personne, la création d'un lieu ressource virtuel à ce moment-là est parue plus appropriée. Mmh. L'objectif en fait était que ces femmes puissent trouver un lieu d'écoute et de soutien à leurs problématiques, des possibilités de réponse, d'information et bien sûr d'orientation et du coup, d'une certaine manière, rompre l'isolement auquel elle pouvait être confrontée. Et nous, au niveau de la MSA, ça nous permettait en fait de réaliser un diagnostic concret des besoins des femmes et de mieux les connaître et dans l'idée aussi de réaliser des actions et des projets avec elles.
C'était une expérimentation au départ, hein, uniquement sur le département de l'Hérault et ça s'est élargi ensuite au Gard et à la Lozère.
Oui, donc l'élargissement était assez récent puisque c'est à compter du mois de janvier 2025 que le Gard et la Lozère ont été concernés par l'étendue de cette ligne téléphonique.
Ce sont des travailleurs sociaux hein, de la MSA du Languedoc qui répondent au téléphone. Quelles sont les situations les plus fréquentes et les questions les plus souvent posées par les femmes qui appellent ?
Ben, essentiellement, la première raison des appels est des problématiques liées à l'accès aux droits. Mais très vite, en fait, donc du coup, nous, on les informe, hein, on les oriente bien sûr vers nos services, si ce sont nos services MSA qui sont concernés, ou vers des partenaires. Mais dans la conversation, on aborde d'autres sujets liés à l'activité professionnelle, à la vie en ruralité, à la vie familiale. Voilà, c'est des éléments qu'on peut avoir sur cette ligne téléphonique.
Cette ligne téléphonique peut-elle aussi servir d'alerte en cas de détresse d'une femme qui vous appelle ?
Alors, c'est pas la première vocation de la ligne téléphonique, mais oui, en effet, c'est arrivé qu'il y ait des situations d'urgence. Et dans ce cas-là, nous, on a pu s'en saisir et orienter auprès d'un accompagnement auprès de nos travailleurs sociaux et aussi auprès des partenaires. Voilà. Mais c'est une ligne téléphonique qui vient pas se soustraire en fait à déjà l'existant. Il y a déjà des lignes téléphoniques, par exemple réservées aux femmes victimes de violences conjugales. Donc vraiment, c'est une ligne plus d'écoute. Mais en effet, il y a des situations qui se sont présentées déjà et nous, on a pu faire le relais et venir en soutien.
Et ça a donné aussi des initiatives concrètes. Hein. Ça a donné lieu à d'autres idées finalement, cette ligne téléphonique.
Oui, totalement. En fait, la majorité des femmes que nous avons eues au téléphone durant l'expérimentation sur le département de l'Hérault ont manifesté le souhait de se retrouver en présentiel. Et du coup, avec ma collègue assistante sociale, Madame Archimbault, nous avons proposé un temps d'échange avec ces femmes et aussi avec des femmes qu'elle, elle accompagnait socialement. Et donc, du coup, sur le département de l'Hérault, toujours, est né un collectif qui s'appelle Du fil au café. Et donc, nous avons rencontré des femmes au sein de l'agence MSA. Et très vite, ces femmes ont souhaité se voir sur leur exploitation à tour de rôle pour faire découvrir leur activité professionnelle, mais aussi leur lieu de vie. Et du coup, ce sont des temps qui sont très riches que nous partageons avec elles, parce qu'il y a de nombreux sujets qui sont abordés. On y parle de mal-être en agriculture, des propos sexistes, du rapport au corps en tant que femme et dans le métier agricole, comment se concilier en fait la vie professionnelle et la vie privée, qui est quand même très imbriquée lorsque le lieu de vie et le lieu de travail sont au même endroit. Et puis, les questions de transmission aussi. Comment on transmet son savoir, comment on transmet son exploitation. Voilà, il y a tous ces éléments-là qui ont émergé dans ces collectifs. Dans ce collectif.
Les rencontres s'appellent du fil au café parce que tout a commencé par un coup de fil, donc, et que c'est devenu ensuite un café.
C'est ça, exactement.
Et ça existe toujours, ces rencontres ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le collectif est composé de 10 femmes. Et donc, on se rencontre d'ailleurs demain. Il y a eu plusieurs rencontres. En effet, on est sur d'ailleurs notre 10e rencontre.
L'isolement, le manque de reconnaissance, le manque de visibilité, finalement, c'est ce dont souffrent majoritairement les femmes agricultrices aujourd'hui, vous diriez ?
Oui, en effet. L'isolement et l'isolement au sens large, l'isolement à la fois géographique, l'isolement social, l'isolement économique et aussi un besoin d'être reconnu en fait dans toutes les charges qu'elles peuvent porter au quotidien, à la fois professionnelle mais de la vie familiale. Voilà.
Et au-delà de ces rencontres en présentiel, donc la ligne téléphonique existe toujours, hein, ce sont 2 demi-journées par semaine.
Oui, tout à fait. Le lundi matin de 9h à midi et le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30.
Et on trouvera le numéro, bien sûr, sur le site des carnets de campagne. Merci beaucoup, Estelle Rouvière.
Merci à vous.
Chargée de développement à la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole. Bonne journée.
Merci, au revoir.
J'ouvre la boîte mail des carnets de campagne pour vous lire le courriel de Charlotte. Puisque vous consacrez votre antenne à l'Hérault cette semaine, m'écrit cette auditrice, j'espère que vous aurez le temps de parler d'une manifestation atypique et féerique qui est prévue bientôt à 25 km de Montpellier, au refuge de la Sylve. C'est un jardin boisé de 2 hectares classé refuge biodiversité à Vacquières. Une fête de la nature est prévue le dimanche 18 mai. C'est totalement gratuit. Vous pourrez déambuler librement et profiter de nombreux ateliers qui sont co-animés par la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Cette initiative est labellisée Printemps Citoyen Région Occitanie, car elle participe à l'animation du territoire. Et pendant les jours qui précèdent cette fête, le refuge accueille aussi les 4 classes de l'école du village. Fête de la nature, le 18 mai, c'est au refuge de la Sylve à Vacquières, dans l'Hérault.
France Inter. Carnet de campagne.
Un habitat participatif et écologique va voir le jour à l'Odève. Il s'appelle l'îlot vert de la Soulondre et l'une des futures habitantes va nous expliquer le projet. Bonjour Anne Gubfert.
Bonjour.
On dit Anne, pardon, c'est ça ?
C'est comme ça qu'on me connaît, oui.
Vous n'êtes pas d'ici, j'imagine ?
Non, je suis d'Alsace, origine d'Alsace.
Vous êtes la présidente de la coopérative qui porte cet îlot vert de la Soulondre. La fin des travaux est prévue pour dans quelques mois. Qui avait-il à cet endroit avant, Anne ?
Au XVIIIe siècle, nous avions des zones cultivées. Puis, dans les années 30-40, il y a eu une ferme de maraîchage. Donc, elle exploitait toute la place du collège, toute la place des habitations qu'il y a aujourd'hui. Et jusque dans les années 70-80, d'après nos recherches.
Donc c'était une friche à l'abandon ?
Oui. Enfin, disons qu'elle a été rachetée par la mairie de l'Odève pour en faire des logements sociaux.
Donc le point de départ de ce projet, c'était l'envie d'éviter la bétonisation de ce site, on peut le dire comme ça ?
Oui, tout à fait. On peut se replonger dans l'époque fin Covid, où il y a une sollicitation d'habitants de dire qu'est-ce qu'on va faire si jamais les camions ne viennent plus à l'Odève, on va se retrouver. sans nourriture. Il y a eu un peu comme ça ce moment un peu difficile. Et puis on a dit, bon, on a commencé à chercher des terrains avec de l'eau et à vouloir planter. Donc on en a trouvé plusieurs et celui-là en faisait partie. Mais la mairie, c'était la mairie et l'État avait acheté pour la mairie. Et du coup, ils nous ont dit, ben, il y a un projet d'habitat là. Donc on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas prévu de construire d'habitation, on voulait des terrains avec de l'eau pour planter, de quoi manger en fait. Et du coup, le projet s'est orienté, soit on faisait une école de maraîchage, soit on faisait un habitat participatif, soit on faisait une ZAD. Bon, la ZAD, c'était un peu violent, donc on a laissé tomber. Et puis ensuite, on s'est dit, ben, on peut faire les deux, un peu école et un peu habitat, vu que c'était le projet de la mairie. Et on a répondu à l'appel à projet en avril 2021.
Et vous avez gagné?
Oui, contre 4 promoteurs quand même. C'était pas simple quand même, parce que nous, on était quand même des simples citoyens, avec notre motivation, mais monter un projet du genre, c'est quand même un peu fou. Quand je vais vous le détailler, vous allez comprendre pourquoi.
Alors, dites-nous tout justement, combien de familles vont s'installer à l'île aux Verts?
Alors, il y en aura 22. Donc 21 familles, et je dis 21 et le 22e, c'est parce que la famille est un peu particulière, c'est qu'on l'a pas encore, parce que nous avons prévu de faire un logement d'urgence, donc un appartement ultra social.
Pour quel profil?
Donc ça va être en partenariat avec une association qu'on n'a pas encore définie, mais soit migrante, soit tout d'un coup un homme ou une femme ou en difficulté qui doit se dépêcher de déménager ailleurs et d'arriver dans un lieu sécure. Voilà. Les 21 autres familles, c'est vraiment multigénérationnel, de 1 an et demi jusqu'à 75 ans. C'est différents horizons. Il y a des personnes qui sont venues spécialement pour ce projet. Il y en a qui viennent Perpignan, Angleterre, Paris, Sète, Lille, etc. Et puis, il y a aussi les fondateurs qui, eux, étaient de l'ODEV.
Et qu'est-ce qu'il y aura sur les parties communes de cet habitat participatif?
Alors, habitat participatif, c'est plus une coopérative d'habitants. Je tiens à le préciser, parce que les coopératives d'habitants, en vrai, il y en a 110 dans toute la France. Et la nuance est importante, parce qu'en fait, dans une coopérative d'habitants, il n'y a pas de spéculation possible. Et tout le monde, quelles que soient les parts que vous prenez, c'est une part, une voix. Donc, même si vous mettez beaucoup de sous, vous n'avez pas plus de voix que les autres.
Donc les habitants et habitantes qui sont membres de la coopérative ne sont ni tout à fait propriétaires, ni tout à fait locataires?
Oui, tout à fait. On est un peu des deux, en fait, puisqu'on achète des parts sociales dans une entreprise qui permet qu'on fait un prêt bancaire, ce n'est pas en notre nom propre, mais au nom de l'entreprise, ce qui permet d'intégrer des personnes qui n'ont pas les moyens.
Et les parties communes, alors, qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors, dans les parties communes, nous avons prévu un atelier avec des outils partagés, un lieu pour réparer les vélos, une épicerie, parce que notre projet en particulier va faire du maraîchage pour continuer l'idée de cette fameuse ferme. Nous allons avoir aussi des chambres d'amis pour accueillir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on accepte de vivre dans moins grand, puisque il faut imaginer un petit immeuble de 2 étages plutôt que chacun construit sa grande maison. Du coup, comme on a moins de place dans nos appartements, on fait ces parties communes. Donc, il y a 2 chambres d'amis, une salle de réunion, une zone comme un petit lavomatique, et puis un grand jardin avec des parties communes dans les jardins, la zone de maraîchage, une serre. Je crois que j'ai fait le tour.
Vous avez hâte de vous installer?
Oh oui, 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 oui. Bon, le site est particulièrement joli. On a une rivière, on a un bout de bois, c'est sur 6000 mètres carrés. Donc, on a essayé vraiment de préserver le terrain en restant que sur 15% de bâti. Donc, on a réhabilité le mas existant et on a construit sur les ruines de l'ancienne ferme maraîchère.
Est-ce que vous diriez que ce type d'habitat, c'est l'avenir à Neux?
Oui, je pense que c'est un modèle d'avenir pour de la solidarité et pour de l'entraide pour toutes les générations, et pour ceux qui ont de l'argent et pour ceux qui n'en ont pas.
Il y a aussi un partenariat avec le collège, c'est ça?
Oui, tout à fait. On accueille les classes de 3e, 4e sur le chantier actuellement, parce que c'est le moment idéal pour savoir les métiers du BTP. Et aussi, on a planté 30 arbres fruitiers avec eux et sur le verger. C'est les prémices du futur de ce partenariat avec le collège. Voilà.
Merci beaucoup, Anne Gupfert. L'île aux Verts de la Soulondre, c'est donc à l'ODEV.
Merci à vous.
Bonne journée, à bientôt.
Au revoir.